Phase 2.
Monsieur, vous voulez un café, quelque chose?
Je vais leur demander.
Je vais leur demander.
Un thé sans chat. Un thé vert sans chat.
Un thé vert sans chat. D'accord.
C'est ça que je crois qui est intéressant dans les conversations, c'est qu'elles puissent vous amener une perspective nouvelle sur la vie et le monde et vous-même.
La conversation.
Une conversation réussie, c'est une conversation où nous échangeons des idées différentes et on tombe souvent d'accord en souriant. C'est bien.
Vous me parlez distinctement, voilà, parce que j'ai un problème auditif.
D'accord. Si je vous parle comme ça, ça va ?
C'est bon.
La conversation, finalement, c'est la meilleure thérapie du siècle.
La conversation. Bertrand Bichot.
Bertrand Bichot.
Alexandre Lemierre.
Alexandre Lemierre.
Je pense qu'une conversation réussie tient de plusieurs éléments, d'être à l'écoute de l'autre, de s'attendre à tout, c'est-à-dire d'avoir la curiosité en éveil et de chercher l'inattendu chez l'autre aussi.
Bonjour, je suis Edgar Morin dans La Conversation.
C'est l'histoire d'une vie, la sienne un peu, mais surtout l'histoire de celles et ceux qu'il a croisés, rencontrés, connus, avec lesquels il a partagé des moments de vie, des jours et des nuits, à parler, échanger, des personnes qu'il a appréciées, aimées ou adorées, peut-être même parfois appréciées, adorées, aimées. Alors que nombre d'écrivains ne cessent de ne parler en réalité que d'eux-mêmes en évoquant les autres, lui au contraire, à travers ce récit de sa vie, dessine le portrait de ses compagnes et compagnons d'existence, consacrant ses mots à celles et ceux qui l'ont accompagné sur son chemin, des êtres constitutifs de la personne qu'il est devenu et devient encore aujourd'hui. Mais d'ailleurs, qui est-il vraiment ? Naoum ? Edmond ? Manin ? Poncet ou Morin ? Edgar Morin est certainement le résultat et la rencontre de chacune de ses identités. À lire son nouveau livre « Les souvenirs viennent à ma rencontre » chez Fayard, on le découvre tout autant auteur qu'acteur de son histoire, l'écrivant et la jouant au fil des jours, une vie qu'il ne faudrait pas moins de toute une vie pour la raconter dans sa totalité, et peut-être encore un peu davantage pour la comprendre réellement. Et c'est précisément ce qu'il a tenté de faire tout au long de son existence. Réfléchir, écrire, échanger, parler, remettre en cause, en question, s'engager à éclaircir ce qui est sombre, flou ou incertain. Trouver du sens là où il semble s'être égaré, voire avoir disparu. Pour cela, il a interrogé, consulté, lu, cherché et recherché, parfois pensant trouver en trouvant une pensée. Dans son nouvel ouvrage, il raconte ses amis, ses amours, ses compagnons de réflexion et de vie, mais aussi le décor du monde, des lieux, des pays, des villes. « Je suis devenu tout ce que j'ai rencontré », confie cet homme qui a toujours résisté à la pensée facile et factice, au chemin déjà tracé pour lui, au piège que le destin parfois peut tendre. Il a résisté sous l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale, au cours de la guerre d'Algérie, de Yougoslavie, du Moyen-Orient, et comme il l'écrit, contre la montée de deux barbaries, l'une venue du fond des âges, de la haine, du mépris, du fanatisme, l'autre froide, voire glacée, du calcul et du profit, toutes deux désormais sans frein. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans La Conversation avec aujourd'hui Edgar Morin, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Plus ou moins.
C'est un jour plus, j'espère.
Entre les deux.
Je parlais beaucoup de résister dans l'introduction. C'est un mot qui vous va bien. Tout au long de votre vie, vous avez beaucoup résisté. Est-ce que c'est plutôt épuisant ou énergisant de résister quand on vous voit à 98 ans, 98 ans? On penche plutôt pour la deuxième réponse. Ça crée de l'énergie.
Écoutez, dans un premier temps, c'est énergisant. Et quand j'ai bien dépensé mes énergies, je suis épuisé.
Vous parlez de votre vie dans votre livre, le nouveau « Les souvenirs viennent à ma rencontre » chez Fayard. Vous avez résisté à plusieurs reprises face à un destin qui n'aurait pas dû, dès le départ, vous laisser vivre. Vous racontez que votre mère a été affectée par la grippe espagnole en 1918. Oui. Grippe qui a fait environ 100 millions de morts. Elle avait conservé des lésions cardiaques qui lui interdisaient d'avoir un enfant.
Elle a rencontré votre papa, elle est tombée enceinte, elle a avorté, de manière bien sûr à l'époque
clandestine et difficile.
Ah oui, par des faiseuses d'anges, comme on appelait ça. Elle est à nouveau tombée enceinte quelques temps plus tard. Elle a à nouveau fait recours à un avortement. Le fœtus a subsisté, si bien que le 8 juillet 1921 à son domicile, elle donne naissance à ce qu'on pensait peut-être être un mort-né. En plus, il arrive étouffé par son cordon ombilical. Vous racontez, le médecin essaye de le réanimer pendant de longues minutes. Finalement, il retrouve la vie. Et c'est l'histoire de votre naissance qui est tout à fait incroyable. On peut avoir l'impression qu'il y a une soif de vie qui était là dès le début pour vous, même presque avant le début, qui semble quasiment vous dépasser dès l'origine de votre vie.
Tout à fait.
Est-ce que vous avez l'impression que ça vous a accompagné dans votre existence ?
Écoutez, ce qui m'a... Je pense que, étant tout à fait inconscient de mes mois passés dans le ventre de ma mère... je pense que quand même j'ai dû subir quelques épreuves et que j'y ai résisté. Je pense que j'ai dû être assez tourmenté puisque je suis né avec le cordon autour du cou dans une position anormale, mais aucun souvenir. Par contre, j'ai depuis ma naissance jusqu'à maintenant, de temps en temps, un sentiment d'étouffement dont je ne peux me libérer qu'à un moment donné où je peux pousser un grand soupir. Et ça, pendant l'enfance, des périodes où je suis plus tourmenté, ça me revient plus souvent et plus fort, mais ça ne m'a jamais quitté jusqu'à maintenant. Donc, j'ai ce souvenir actif de mon premier cri, peut-être, si vous voulez, de mon première respiration, que je garde encore en moi. Donc, si vous voulez, le premier jour de ma naissance est encore inscrit au bout de 98 ans.
On peut penser que c'est la mémoire du corps, mais est-ce qu'il y a une forme de mémoire de l'esprit aussi dans cette expérience ? Est-ce que votre côté combattant viendrait peut-être aussi de là ?
Peut-être, mais je crois que l'événement le plus décisif a été la mort de ma mère quand j'avais 10 ans. Parce que ça m'a frappé de plein fouet et qu'en plus, je l'ai découvert tout seul parce que mon père, ma famille, voulait me le cacher pour me ménager, bien sûr. Mais c'était une erreur de leur part. Et que pour moi, c'était un bouleversement total. J'étais enfant unique, c'était mon adoration. Elle m'adorait, donc c'était la perte de l'absolu. Donc ça m'a marqué et ça m'a même peut-être déterminé. Si vous voulez, c'est l'événement à la fois le plus épouvantable et le plus fécond de ma vie, puisque à partir de ceci, j'ai éprouvé le besoin de m'interroger, d'interroger le monde. Mais qu'est-ce que je fais dans la vie ? J'ai eu un besoin d'aimer et d'être aimé. J'ai été poussé tout seul dans l'aventure de la vie et je me suis fait à travers mes lectures, à travers mes expériences. Et donc, sans ce malheur originel, je ne sais pas si
votre vie aurait été la même.
Voilà.
Vous dites même que vous êtes tombé malade peut-être en relation avec le décès de votre maman. Vous avez une fièvre aphteuse. Vous dites, est-ce que quelque chose en moi me poussait à mourir, soit par excès de difficulté à vivre, soit pour rejoindre ma mère ? Je reste persuadé que cette maladie est une conséquence de sa disparition. Et vous racontez dans votre livre d'ailleurs que vous n'avez pas été épargné, votre corps, par des problèmes de santé. Vous avez une grave hépatite, une tuberculose en 2000 avec un an et demi de prise massive d'antibiotiques. Vous avez eu une sciatique qui vous a poussé à faire vos conférences en chaise roulante. Là aussi, le combat a été important et nécessaire pour pouvoir continuer vos activités et toujours à travailler avec votre esprit. Il fallait que le corps suive, même si souvent il était attaqué.
Oui, mais à chaque fois, il a été aidé. Par exemple, quand j'avais cette fièvre qu'on a diagnostiquée comme aphteuse parce que les médecins étaient complètement ahuris devant tout ça. On m'a mis dans de la glace parce que j'ai dépassé 40 de fièvre. Ma tante me retirait les aftes de ma bouche Et donc, si vous voulez, j'ai été toujours aidé. J'ai été très bien soigné quand j'ai eu l'hépatite à New York. Et vous savez, toujours, enfin, selon la maxime, ce qui ne me détruit pas me fortifie.
Vous êtes très très fort, du coup, aujourd'hui.
Peut-être que dans le fond, ça m'a aidé, ça m'a donné ce que certains appellent maintenant la résilience,
ouais.
Qui est cette forme de résistance de l'être.
Edgar Morin, je vous propose d'écouter votre portrait sonore signé par Alexandre Lemierre.
La conversation.
L'Espagne, victime de l'agression et de la guerre civile, offre à la sympathie des visiteurs un pavillon de lutte et de combat pour la défense de la République. Victime de la non-intervention à sens unique, elle affirme sa foi dans la victoire finale du droit, de la justice et de la liberté.
La France vote pour la première fois depuis sa libération. 5 millions de voix se portent sur les listes d'Union résistante et républicaine. La France fait confiance aux communistes parce qu'ils se sont battus, parce qu'ils ont été sur le sol national l'âme de la résistance intérieure. La France fait confiance aux communistes parce que le sacrifice de 75 000 d'entre eux a fait de leur parti le meilleur artisan de sa libération.
Le congrès constitutif de la Fédération nationale des prisonniers de guerre vient de se tenir à Paris. Il groupe l'ensemble des prisonniers de guerre qui ont milité dans les centres d'entraide et le mouvement national des prisonniers de guerre et déportés, pour que M. Mitterrand, prenant la parole, évoque l'action déjà accomplie.
Mais je pourrais quand même dire et affirmer en toute vérité que de nombreuses villes importantes de France furent délivrées par des groupes spécifiquement prisonniers de guerre.
Edgar Morin, philosophe, sociologue, anthropologue, le spécialiste des idées générales qui marie à la fois les sciences de l'homme et les sciences de la nature.
Le second type de communication est la communication de masse. Nous souhaitons transmettre un message à tous les récepteurs qui utilisent le support choisi. Elle nécessite en effet un support à travers lequel un message unique sera diffusé vers une quantité illimitée de personnes.
Mesdames et messieurs, chers amis, au nom de l'Association pour la pensée complexe et de son président Edgar Morin, de ses vice-présidents Saba Abouessalam, Jean-Louis Lemoigne et Mauro Cerutti, nous vous souhaitons la plus chaleureuse bienvenue au premier congrès mondial de la pensée complexe.
Bien sûr, ça m'intéressait. Il a été en mer avec moi, Mademoiselle Petit, et puis un photographe qui avait aussi avec nous, nous photographier.
Donc là, ces enquêteurs-là, ils ne vous ont pas gêné alors.
Ah, c'est là, non.
De 60 à 65, jusqu'à ce qu'il y ait donc concrètement une prise de conscience de ce qui avait été fait, les prosélytiens se sont laissés pénétrer très facilement par les chercheurs.
Et avec quelle image des chercheurs ? Ils ont pensé quoi ?
C'était extrêmement variable. Évidemment, tout d'abord, je crois que l'image qu'ils avaient des chercheurs dépendait des thèmes d'enquête de chaque groupe de chercheurs. Il y a des chercheurs pratiquement qui n'ont pas participé du tout, qui ne se sont pas intégrés à Plozévet.
Il y a deux élans dans le cinéma vérité, lorsque celui-ci part à la recherche de la vie quotidienne. Un élan qui veut nous amener à prendre distance à l'égard de nous-mêmes, à nous dédoubler, à nous regarder comme si nous étions extérieurs à nous-mêmes. Appelons cela la distanciation.
Ce film n'a pas été joué par des acteurs, mais vécu par des hommes et des femmes qui ont donné des moments de leur existence à une expérience nouvelle de cinéma-vérité.
5 ans au bout desquels vint enfin l'effondrement, précipitant son peuple dans le désastre. Mais un désastre qui, lentement, au fur et à mesure que se levait le voile sur la vérité de ces 5 années de nuit, débouchait sur une des plus atroces tragédies de l'histoire humaine.
En 1950, au moment d'entrer au CNRS comme chercheur dans la section sociologie, aucune nécessité intérieure ne me poussait à choisir le cinéma comme thème d'étude. mais j'étais poussé par quelque chose de très intime. La fascination de mon adolescence et mon sentiment adulte que le cinéma est beaucoup plus beau, émouvant, extraordinaire que toute autre représentation.
La conversation.
On a évoqué entre autres la guerre d'Espagne, le Parti communiste, François Mitterrand, Plosvet, vous y êtes resté en 1965 un an pour une étude sur la transformation de la France de l'après-guerre. C'est devenu l'ouvrage La métamorphose de Plosvet. On a évoqué le concept de cinéma vérité et puis un extrait entre autres du documentaire sur vous, Chronique d'un regard. À la fin, vous parlez du cinéma. Est-ce qu'il reste encore ce cinéma aujourd'hui pour vous la représentation la plus belle, la plus émouvante et la plus extraordinaire? Vous restez un grand cinéphile aujourd'hui, Edgar Morin, encore?
Bien entendu. Malheureusement, je ne vais pas aussi souvent au cinéma que je le désirerais. Mais quand même, je continue à voir des films. Le dernier vu, du reste, Le Traître de Mario Bellocchio, m'a beaucoup impressionné et marqué. Et là aussi, on voit que dans ce genre de film, il est à la hauteur d'une tragédie grecque ou d'une tragédie shakespearienne.
Des femmes vous embrassent en passant.
C'est gentil.
Nous sommes dans un hôtel. Madame.
Je suis l'épouse.
Ah, l'épouse, voilà. Enchantée, madame. Enchantée. Vous avez bien le droit d'embrasser votre mari.
Au revoir.
Au revoir. Merci, merci Béatrice. Merci. Merci. Merci bien.
On vous le confie.
On s'en occupe. Pour l'instant, tout va bien. Merci beaucoup. Bonne journée, madame. Au revoir. On parlait de cinéma et vous, oui, voilà. Vous l'évoquez, le cinéma, en l'associant d'ailleurs à la disparition de votre mère. À un moment, vous dites, quand vous étiez enfant, je ne pouvais pas savoir qu'après le décès de ma mère, le lycée deviendrait l'un de mes deux refuges, l'autre serait le cinéma. À un autre moment, vous écrivez, les films me happaient, leur vie m'insufflait de la vie. Et vous parlez aussi à un moment d'un grand artiste de cinéma en disant, le cinéma très longtemps méprisé par les élites intellectuelles a produit et révélé au XXe siècle un des plus grands humanistes, philosophes, poètes et visionnaires de tous les temps, c'est de Charlie Chaplin, oui. Dont vous parlez en ces termes. Qu'aimez-vous tant en lui et dans son travail?
À part, enfin, en plus des petits films comiques qu'il a fait et qui sont à la fois très drôles et très émouvant, je pense que, par exemple, dans les temps modernes, il a déjà fait un diagnostic sur notre société industrielle très perspicace et profond, que seulement plus tard ont repris des philosophes officiels ou des sociologues. Je pense qu'il a eu une sensibilité à la détresse humaine, à celle de l'enfant abandonné, comme dans le Kid, à celle de la petite jeune fille aveugle, à celle de la femme désarmée. Et en plus, je pense que quand Le Dictateur est un film qui n'est pas seulement une vision à peine caricaturale de Hitler, puisque déjà la caricature était dans le comportement, mais aussi un message d'humanité qu'il nous transmet. Et je trouve admirable que ce petit clown comédien, disons de banlieue londonienne, se soit formé à travers ses films, à travers sa vie, à une ampleur de vue, à une générosité. Je pense à ce qu'il a dit à l'abbé Pierre, parce qu'il avait fait un don de je ne sais plus combien de milliers de dollars à l'abbé Pierre, qui le remerciait. Mais non, c'est moi qui dois vous remercier au nom de tous les personnages que j'ai incarnés. Voilà. Donc c'est un... Il est capable de nous faire rire d'une façon formidable et de nous arracher des larmes, d'émotions. Donc c'est, voilà, je maintiens ce jugement.
Votre thé vient d'arriver, je vais vous le servir.
Ah oui, on peut le mettre là.
Un thé vert japonais.
Voilà.
Que vous avez commandé il y a quelques minutes au bar de l'hôtel où on se trouve. Je vous verse le shot dans la...
Ah,
vous préférez le mettre dans la théière, le sachet.
J'allais le mettre dans la théière. Ah, il y a tout un art.
Ah, oui.
Il faut que ça sorte. Attendez. Au bon endroit.
Il y a un piège. On va pas vous ébouillanter.
J'y arrive
pas. Ah, ça y est.
Voilà.
Hop.
Voilà, une fois qu'on est là, on l'enfonce. Et là, c'est plus facile de le remettre, puisque vous avez cette indication.
Vous avez une meilleure vue que moi. Est-ce que vous prendrez du sucre, vous voulez que je... Non.
La conversation.
En 1969, Edgar Morin, vous publiez au Seuil le vif du sujet, écrit lors d'une longue convalescence d'une année. Vous en parlez dans votre nouveau livre et vous définissez le vif du sujet comme le meilleur et le moins lu de vos livres. C'est un ouvrage singulier, assez difficile à classer entre l'essai et la réflexion philosophique, entre le journal et le récit introspectif. En quoi est-il à vos yeux le livre le plus important, le vif du sujet? En tout cas le meilleur, comme vous l'avez défini.
Parce que je crois que, à l'époque où j'ai commencé en convalescence, justement après mon hépatite, je voulais me repenser moi-même, c'est-à-dire savoir qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que j'ai fait, où je suis. Enfin, et donc, c'est un travail à la fois d'introspection personnelle et en même temps de savoir où j'en suis, de ma façon de voir le monde, de penser, de croire. Et il y a, dans le fond, je crois que c'est la fois où j'ai le avec le plus de densité, si vous voulez, déjà exprimer ce qui était ma façon de penser avant que je la traduise d'une autre façon dans la méthode, par exemple. Et donc, plus je le relis, plus je sens que ce livre, c'est pas, c'est moi-même. Je veux dire que c'est là où je me vois encore, bien que je l'ai écrit en 1962. Vous voyez. C'est une époque où j'ai éprouvé un besoin très profond de réflexion, et cette réflexion me reste valable, et en plus elle est marquée par la subjectivité.
Dans les années 40, vous écoutiez entre autres ce titre, cette musique qu'on va écouter ensemble maintenant. C'est le titre, le morceau Tiger Rag, joué par Stéphane Grappelli et Django Reinhardt. Thank you. Edgar Morin, on continue notre discussion à l'occasion de la sortie de votre livre « Les souvenirs viennent à ma rencontre » chez Fayard. Vous avez évolué la grande partie de votre vie dans un monde d'intellectuels, mais on s'en rend compte en vous lisant, c'est étonnant et un peu amusant aussi, mais qui conservait son intérêt pour le physique, pour l'appétit des corps, pour le besoin de sensualité. Vous racontez des dîners durant lesquels la femme de Raymond Queneau, qui était d'un érotisme déchaîné, dites-vous, faisait du pied à la table à son amant. Pendant ce temps-là, Georges Bataille faisait des attouchements discrets à ses voisines sans discrimination. Et puis vous parlez aussi beaucoup des femmes de votre vie. Au fil des 700 pages, on découvre les prénoms de Georgette, Régine, Hélène, Joanne, Annick, Amy, Marie-Lu, Magda, Violette, Saba. À vous lire, on ressent que l'amour a vraiment une place très importante dans votre vie, et vous le dites, suite au décès de votre maman, peut-être que vous étiez encore plus en attente de l'amour des femmes. Vous qui avez beaucoup réfléchi sur un nombre de sujets essentiels dans la vie, comment est-ce que vous avez vécu votre vie amoureuse? Est-ce qu'il y avait une forte dimension cérébrale de réflexion, ou c'était plus quelque chose vécu par intuition, par impulsion, par instinct, votre vie amoureuse?
Il y a plusieurs choses, mais une chose qui me frappait toujours, c'était un visage, pas seulement les traits, mais aussi le regard, l'expression, et un visage féminin pouvait produire en moi un effet de fascination dans cet état de transe douce, qui est que dès qu'on quitte l'état normal, si vous voulez, de banal de la vie, on est dans un état de un peu de déjà de un phénomène, je dirais presque newtonien, de d'attraction, n'est-ce pas, de l'équivalent sur le plan psychique et physique de ce qu'a dit Newton. Et donc, si vous voulez, ça pouvait partir comme ça. Par exemple, au cours d'une réunion au retour de Pologne, qu'on faisait avec mon ami Claude Lefort, il avait amené une jeune femme, une Italienne, brune, qui était assise, et moi je la regardais, et j'étais de plus en plus frappé par son visage. Et donc, après la conférence, je viens lui trouver, en trouvant un prétexte que si elle est capable de faire des traductions de l'italien en français, pour prendre un rendez-vous, et la connaissant mieux, à ce moment-là, des phénomènes à la fois psychiques et physiques se déclenchent, et donc nous allons plus avant. En fait, c'est-à-dire que je prends le cas de Marie-Lou, il y avait une confluence totale entre un amour psychique et un amour physique. Et il y a des cas où ça reste sur le plan physique. Mais même quand ça reste sur le plan physique, au moment, disons, de l'étreinte, c'est un moment où j'ai un sentiment d'adoration. Pour moi, faire l'amour, c'est un culte. C'est comme si j'accomplissais un rite sacré. Parce que, et du reste, on arrive à l'équivalent de l'état d'adoration divine ou cosmique. Il y a l'extase, disons, des moines, l'extase de Thérèse d'Avila. Bon. Et pour moi, l'extase qu'on a dans l'acte amoureux est de même nature. Mais il est vrai que, avec les personnes qu'on n'aime pas, l'adoration est provisoire, elle retombe, alors que la personne qu'on aime, l'adoration subsiste et persiste, etc. Donc, si vous voulez, j'ai subi beaucoup d'attractions, les unes qui se sont...
Subir, vous en étiez victime, consentant.
Oui, enfin. Mais vous savez quand même... Quand on a 98 ans, qu'on a, disons, ça veut dire presque 80 ans de vie, c'est normal qu'on ait beaucoup d'expériences amoureuses. Même, par exemple, mariage. Mon premier union avec Violette a duré 20 ans.
Oui.
Bon, on s'est séparés parce que la vie nous fait diverger. Bon, avec Johan, ça a duré 16-18 ans. Avec Edwige, ça a duré beaucoup plus parce que ton temps, puis elle est morte. Et puis avec Sabah, ça va durer jusqu'à ma mort.
Nous l'avons
donc, si vous voulez, ce sont des choses. C'est pas des mariages à la Hollywood où on se marie, on divorce, Non, c'est des unions qui durent.
En 1948, Edgar Morin, vous publiez un ouvrage important, L'homme et la mort. Ça vous a demandé 2 ans de recherche. Pour la première fois, vous vous attaquez à une grande entreprise transdisciplinaire. Vous y expliquez, entre autres, qu'il y a principalement 2 conceptions premières et fondamentales de la vie après la mort. L'idée que l'esprit subsiste après la mort du corps, et puis la deuxième idée de la renaissance en une vie, soit humaine, animale ou végétale. Et vous dites, nous sommes le seul animal qui ait conscience de la mort et qui en même temps la surmonte dans le mythe. Mais comment la surmonter autrement que dans le mythe? Comment faites-vous avec votre mortalité et l'idée de la mortalité? Est-ce que vous arrivez à échapper au mythe auquel vous référez?
Oui, je fais partie de ces personnes qu'on appelle agnostiques, c'est-à-dire je ne crois pas qu'il y ait une survie après la mort, même d'une substance immatérielle qui serait là. Je ne crois pas, mais j'en sais rien, j'en suis pas sûr, mais je ne pense pas. Ça, c'est une chose, mais je pense que dans l'univers, dans le monde, il y a un grand mystère. Moi, je respecte, j'ai un sentiment très fort du mystère. Pourquoi on est dans ce monde? Pourquoi ce monde existe? Pourquoi est-ce que je suis né? Mais je n'arrive pas à avoir une croyance en une vie, quelle qu'elle soit, après la mort. Mais je n'affirme rien de façon péremptoire.
Et comment vous vivez avec cette intuition?
Alors, vous savez, parfois, l'idée de la mort m'arrive comme une sorte de chose qui me vide de l'intérieur. J'ai un sentiment de... pas tellement de néantisation de mon corps, mais de mon « je », de mon « moi-je ». Ce qui est, à ce moment-là, le plus inquiétant, le plus... C'est, je veux dire, ce jeu qui est en train de réfléchir à moi, à ma mort, il n'existera plus. Mais ce sont des moments, et puis je dois dire aussi que ce sont les forces de vie qui m'entraînent. Dans le fond, ce qui refoule l'angoisse de la mort, c'est l'intensité de la vie et la participation à des forces de vie qui continuent en moi. C'est-à-dire, il n'y a aucun changement fondamental dans ma vie. Et puis il y a un autre phénomène un peu bizarre, c'est que quand j'ai atteint mes 80 ans, je me suis dit, ben ça y est, maintenant je vais avoir un arrêt cardiaque, un AVC, je sais pas quoi. Je me dis, c'est l'âge normal où je vais mourir. Alors 81, 82, 83, 83, j'arrive à 90. Et quand je commence les années 90, ça me devient tellement banal de vivre que ça me semble, je pense plus du tout de cette façon-là. Je me dis pas, ah, bon, je pense que peut-être ça peut venir, l'AVC, tout ça. Mais je dirais, ça ne me semble plus aussi évident et nécessaire que ça me semblait quand j'étais octogénaire. Voilà.
On peut oublier de mourir. Peut-être peut-on oublier de mourir si on n'y pense plus.
Ben écoutez, le plus souvent, on oublie qu'on est mortel. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais on s'en rappelle de temps en temps.
Votre vie, Edgar Morin, a été constituée de nombreuses prestigieuses rencontres. Retour en son sur quelques-unes d'entre elles.
Oui.
On va vous faire écouter ça.
Simone Berriot, vous avez ouvert le théâtre Antoine au Possédé et je crois qu'il faut souligner que c'est un acte courageux.
Pas courageux en soi de monter les Possédés, surtout pas de monter une pièce de Camus que j'attends déjà depuis des années.
Comment? Pourquoi je fais du théâtre?
Eh bien, je me le suis souvent demandé.
Et la seule réponse que j'ai pu me faire jusqu'à présent vous paraîtra sans doute d'une décourageante banalité. Tout simplement parce qu'une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
Je crois que l'homme sera littéralement noyé dans l'information, dans une information constante.
Breton, qui est quand même le génie français, je dirais, par excellence, l'inventeur de surréalisme, méritait au moins d'avoir ce qu'on a fait ce matin et ce que sa fille Aube demandait à juste titre. Et voilà, et ben c'est Paris qui s'habille de ses plus beaux habits, ceux du surréalisme et ceux d'André Breton.
Haben diejenigen ihrer Kritiker recht, die behaupten, Martin Heidegger sei so konzentriert mit der Frage nach dem Sein beschäftigt, dass er die Conditio humana, das Sein des Menschen in Gesellschaft und als Person, drangegeben habe?
Ja, diese letzte Kritik ist ein großes Missverständnis. Denn die Seinsfrage und die Entfaltung dieser Frage setzt ja gerade eine Interpretation des Daseins voraus. Das heißt, des Wesens des Menschen. Und der Grundgedanke meines Denkens ist ja gerade der, dass das Sein bzw. die Offenbarkeit des Seins der Mensch.
La plaisanterie, Milan Kundera, c'est un livre tellement complexe qu'on ne sait pas très bien par quel côté commencer.
Non, le roman commence à l'année, cette histoire, ce roman commence à l'année 48.
Oui.
Mais les jours cette histoire, c'est l'histoire de trois jours.
Un discours, c'est cette sorte de lien social qui, chez ce que nous appellerons, comme un accord, si vous voulez bien, l'être par l'homme, ce qui est un pléonasme, n'est-ce pas ?
Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papa.
Vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi...
Roland Barthes, il y a un certain nombre de jeunes gens très intelligents, à l'école normale par exemple, entre autres, qui vous considèrent comme un maître à penser. Vous pourriez m'expliquer pourquoi ?
Je pense que je suis le plus mal placé pour l'expliquer, ce qui voudrait dire que je prends ce mot à mon compte, ce qui n'est pas le cas. Mais je dirais, disons plus simplement, que les recherches que je fais s'inscrivent évidemment dans un ensemble d'autres recherches qui ont, je pense, une certaine nouveauté actuellement et qu'on peut placer en gros sous le vocable de structuralisme, si vous voulez. Ce que cherchent dans des domaines très différents des gens comme Lévi-Strauss en ethnologie ou Lacan en psychanalyse, eh bien, j'essaye aussi, plus modestement, de le chercher en ce qui concerne un certain nombre d'autres langages comme, par exemple, précisément, la littérature.
Je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel. C'est écrire qui est exceptionnel.
Edgar Morin, on a entendu évoquer les voix d'Albert Camus, que vous avez connu, Marguerite Duras, André Breton, Heidegger, Milan Kundera, le pape François, Jacques Lacan, Roland Barthes, on aurait pu rajouter Fritz Lang, André Breton, Pierre Bourdieu, entre autres. Vous parlez beaucoup de Marguerite Duras, il y a un chapitre qui s'appelle « Les années Duras ». Vous l'avez assidûment fréquentée, elle et son mari et son amant. Nous vivions rue Saint-Benoît en commun, en communauté, en communion, écrivez-vous. Et à l'époque, il y avait le clan rival, vous rappelez, de Beauvoir-Sartre. Vous écrivez « Marguerite et Simone étaient rivales pour la prééminence littéraire ». Beauvoir s'imposa intellectuellement auprès des femmes par son féminisme, mais Duras s'imposa viscéralement auprès d'elles par sa féminité. L'une montrait que la femme était semblable à l'homme et égale en droit, l'autre exprimait sans cesse l'irréductible féminin venu des profondeurs, et sa littérature unique le révéla pleinement. Vous vous situez où, vous, entre ces deux conceptions, on peut dire, de la femme, de la féminité, voire peut-être même du féminisme ?
Après l'époque beauvoirienne, où dans le fond le féminisme revendiquait l'égalité des droits, sans du tout parler de la différence, alors que le féminisme d'après 1968 est devenu un féminisme de l'irréductible féminin, mais qui pour autant a autant de droits que les hommes dans la société. Et donc, si vous voulez, on peut dire que, pour moi, le du racisme et le beauvoirisme sont complémentaires, mais je pense que sur le plan anthropologique profond, Duras a exprimé quelque chose qui est très, très, très propre à la femme et que tant de femmes ont reconnu en elle. Voilà.
On va se replonger dans les années 50, dans vos années 50, musicalement, Edgar Morin. À l'époque, vous alliez au Tabou, c'est un club de jazz, rue Dauphine, pas très loin d'où nous nous trouvons aujourd'hui. C'était le rendez-vous des intellectuels et de ceux qu'on appelait les Zazous à l'époque. Vous alliez écouter Boris Vian s'époumonnant à sa trompette, écrivez-vous. Voici Boris Vian avec Le Déserteur.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Bonjour, je suis Edgar Morin dans La Conversation.
Edgar Morin, on vient d'écouter Boris Vian avec Le Déserteur. Quel regard le résistant que vous avez été porte sur ceux qui ont choisi d'être déserteurs ?
C'est-à-dire que le déserteur est postérieur et en quelque sorte annonce déjà l'attitude d'un certain nombre de jeunes gens qui vont être appelés pour la guerre d'Algérie. Disons, Le Déserteur, c'est une chanson à la fois de notre après-guerre où on se détache de ce sentiment qu'il fallait absolument la faire, qu'on a vécu notre génération. Là, les choses sont faites et il se situe dans un nouveau contexte. D'ailleurs, ce nouveau contexte commence à venir avec aussi les chansons de Georges Brassens. C'est-à-dire, il y a une veine libertaire qui renaît et qui en commence à refouler cette veine communiste qui a été très hégémonique culturellement pendant longtemps. Ce déserteur reste, je dirais, en dehors des circonstances. C'est un film de refus de la guerre, très légitime.
Vous avez été témoin d'un siècle d'histoire. Est-ce que vous avez l'impression que nous avons, nous humains, tiré les leçons de ce qui s'est passé au XXe siècle? Je sais que vous êtes arrière-grand-père d'une petite Liuba qui a quelques mois. Que pensez-vous, que vous dites-vous quand vous la regardez, quand vous l'imaginez grandir? Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire, lui transmettre de votre vie, de votre expérience à cette petite fille de quelques mois?
Je pense que elle grandira dans un monde précaire et tourmenté et incertain. Ce que je peux dire, c'est que finalement, quand on est jeune, on sent en soi des aspirations profondes à son propre épanouissement de vie, à une autre vie, et en même temps que cette aspiration à l'autonomie personnelle, une aspiration à la communauté, à la fraternité. Et je lui dirais de cultiver en elle cela à travers les aléas, à travers les incertitudes de la vie, de chercher elle-même à se réaliser, à réaliser ses aspirations, et en même temps de toujours être reliée à quelque chose de commun, et si possible de se sentir participant, comme je me le sens moi-même, à l'aventure humaine, qui est une aventure inconnue, dont chaque étape était imprévisible auparavant. Et nous savons que nous sommes à une époque de mutation, de transformation, sans savoir si une période de catastrophe multiple va prédominer ou non. Donc, dans l'incertitude, je lui dirais, nous sommes dans un monde livré à des forces de mort, de destruction, de répression, et des forces d'union, de communion, d'amour. Le parti d'Eros et le parti de Thanatos, comme je l'ai dit dans mon mémoire, je dis, prends toujours le parti d'Eros, avec pas seulement cette bonne intention, mais avec un peu de lucidité, parce que moi j'ai connu tellement de gens qui croyaient œuvrer pour l'émancipation humaine en étant communiste et qui, sans le savoir, œuvrait pour son contraire, qu'il ne s'agit pas de vouloir le bien, il faut en même temps essayer d'être lucide et, si on se trompe, de se corriger. Voilà ce que je pourrais lui dire.
La plus belle conversation de votre vie, c'était quand et avec qui?
Moi, ce dont je me souviens, c'est les plus belles conversations, c'était avec mon ami Dionis Mascolo et Robert Antelme. C'est là où, tout en étant très fraternel, on pouvait diverger et reconverger et rediverger. Et en plus, où on s'entreformait les uns les autres. Dionis, c'est lui qui m'a fait découvrir le surréalisme, il m'a fait découvrir La mort à Venise de Thomas Mann, il m'a fait découvrir le flamenco, il y avait un peu de tout dans notre relation.
Merci beaucoup Edgar Morin pour cette conversation. Je rappelle que votre nouvel ouvrage s'appelle Les souvenirs viennent à ma rencontre, paru chez Fayard.
Quand j'ai atteint mes 80 ans, je me dis c'est l'âge normal où je vais mourir. Et quand je commence les années 90, ça me devient tellement banal de vivre que ça me semble, je ne pense plus du tout de cette façon-là, ça ne me semble plus aussi évident et nécessaire que ça me semblait quand j'étais octogénaire.
Je vous propose de clore cette conversation en musique en écoutant un morceau dont vous avez dit « Mes cheveux, à l'écoute de ce morceau, se hérissaient sur ma tête. J'étais dans une formidable extase, non de sérénité mais d'absolu. Tout ce premier mouvement me transportait littéralement dans son flux, ses ruptures, mêlant concorde et discorde, violence et tendresse. Depuis, ce mouvement n'a cessé de m'habiter. Voici le premier mouvement de la 9e symphonie de Beethoven. » Vous venez d'écouter la conversation aujourd'hui avec Edgar Morin. Merci à Alexandre Lemierre pour la réalisation. Si vous souhaitez réécouter ce programme, vous pouvez vous rendre sur le www.rts.ch/laconversation. Bertrand Bichot au micro, je vous donne rendez-vous comme chaque semaine, le vendredi et samedi à partir de midi. Très bel après-midi à l'écoute des programmes d'Espace 2.
Vous êtes passionné par la radio et féru d'actualité ? Alors pourquoi ne pas devenir membre du jury des auditeurs qui décernent chaque année le prix du journalisme radio des médias francophones publics ? Votre mission ? Être disponible le 7 décembre prochain, écouter les 5 reportages en lice et leur donner une note. Le prix du journalisme radio des MFP 2019, renseignements et inscriptions jusqu'au 2 décembre sur notre site rts.ch/prix du journalisme ou par téléphone au 058 236 64 18.
Il est 13h, vous écoutez Espace 2.